Le passage que nous venons de lire est le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Un évangile qui est composé de textes essentiels pour comprendre qui est Jésus et le chemin qu'il nous invite à suivre. Dans cet évangile, Jésus s'annonce auprès du peuple juif et se fait connaître à travers une succession de miracles. Il change l'eau en vin dans les noces de Cana. Il redonne vie à un enfant mourant. Il remet sur pied un homme paralysé. Il y a également la fameuse scène de multiplication des pains et des poissons. Et bien sûr, la scène où il marche sur l'eau. Bref, les miracles réalisés sont nombreux. Pourtant, malgré cela, sa parole continue d'être mise en doute. Dans ce texte, il n'est pas question de miracle, mais il est question d'un jugement, celui d'une femme. Une femme qui a commis un adultère et qui doit répondre de ses actes. Mais quand on y regarde de plus près, on comprend en fait qu'il s'agit d'un double jugement, celui de la femme, bien sûr, mais aussi celui de Jésus, à qui les pharisiens et maîtres de la loi ont tendu un piège et qui, en fonction de sa réponse, risque d'être décrédibilisé, voire condamné. On assiste donc à une scène de jugement, une scène qui peut à certains égards nous être familière, tant tout au long de notre vie nous y sommes confrontés. Que ce soit à l'école, au travail, au sein de nos cercles familiaux et amicaux, et évidemment sur Internet, les réseaux sociaux s'étant institués comme forums et tribunes populaires. Sans cesse, comme Jésus, on est appelé à juger l'autre. On nous appelle à exprimer notre avis sur telle ou telle situation, telle personne, il faut décider de si c'est bien ou si c'est mal. La question du jugement est une question préoccupante pour tout un chacun, et pour nous chrétiens, cette question est majeure, le jugement dernier. Vais-je aller au paradis ou en enfer ? Comment serons-nous jugés ? Bref, nous jugeons, nous savons que nous sommes jugés, et nous redoutons le jugement de l'autre. Quand Laurence nous a proposé de construire le culte autour du texte « La femme adultère », pour vous dire vrai, j'étais pas très emballée. Avant même de lire le texte, le titre avait suscité en moi une certaine gêne et une désapprobation silencieuse. L'adultère, un titre qui choque, un sujet immoral, graveleux, délicat à aborder devant un jeune public. Sans même m'en rendre compte, j'étais en train d'émettre un jugement sur quelque chose que je ne connaissais pas et de faire fausse route. Car il ne s'agit pas d'un texte sur l'adultère, mais d'un texte qui nous appelle à réfléchir sur la manière dont nous portons un jugement sur l'autre. Comment, en tant que chrétien, juger une personne qui a fauté ? Si on en revient à l'étymologie du mot « juge », on a une première piste. Tiré du mot latin « jus dicere », juger, c'est prononcer un verdict au regard de la loi. En fait, c'est ce qu'appellent à faire les pharisiens et les maîtres de la loi, puisqu'ils nous le disent, d'après les lois de Moïse, cette femme doit être lapidée. C'est simple, rapide et efficace. On a la notice, il suffit de l'appliquer. Mais comment Jésus lui juge-t-il ? Si on en revient au texte, on peut lire que la première chose que fait Jésus lorsqu'on lui amène la femme, c'est de s'abaisser et de dessiner dans le sol. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas tout de suite. Il prend son temps, il met une certaine distance avant de se prononcer, et ce malgré l'empressement qu'il y a tout autour de lui. Cette capacité de prise de distance face à une situation, c'est ce qu'on désigne aujourd'hui sous le mot d'esprit critique, mot qui nous vient du grec et qui désigne très justement le fait d'être capable de discernement. Agir comme Jésus, ça ne se résume donc pas à mettre de côté son intelligence et à suivre la foule. Il nous invite au contraire à rester éveillés, à mobiliser notre esprit critique, même face à l'autorité, et à méditer sa parole, et être dans une forme de recueillement, pour être au plus proche de son sens profond. Et que résulte-t-il de ce moment de recueillement, une parole inouïe, qui nous prend de court et qui nous transperce par sa vérité ? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est une parole inouïe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais entendue, parce qu'elle vient poser sur la situation un nouveau regard. Contrairement à ce qu'on attend, Jésus ne va pas nous dire si la femme est coupable ou innocente, mais il va déplacer la question et ouvrir une troisième voie en venant mettre la lumière sur notre propre hypocrisie. Cette femme, c'est nous. Sa parole, pleine de vérité, vient l'extirper d'un raisonnement binaire qui le prend au piège, appliquer la loi et la lapider, ou bien ne pas appliquer la loi et se condamner lui. Et cette parole vient aussi dévoiler ce masque d'être parfait et irréprochable derrière lequel nous nous cachons aux autres et à nous-mêmes, au point de pointer autrui du doigt à sa moindre faute. La femme adultère, c'est chacun d'entre nous, car nous tous sommes pécheurs. Comme elle, nous avons déjà commis des fautes. Alors pourquoi se sentir plus légitime qu'un autre à la juger ? Sur ces mots, les accusateurs pris de court par cette vérité s'en vont, les uns après les autres, laissant la femme seule face à Jésus qui continue ses desseins sur le sol. Seule face à Jésus, le seul homme qui n'a jamais fauté. Il y a de quoi se sentir intimidée, honteuse. S'il y a bien un homme qui serait à même de la juger et de lui jeter cette première pierre, c'est bien lui. Et pourtant, lui non plus ne la condamne pas. Non seulement il nous invite à suspendre notre jugement, mais il nous annonce qu'il ne nous juge pas. Et si, comme moi, vous partagez le sens de la justice, il y a de quoi être désarçonné par ce message. Alors quoi, que nous dit Jésus? Que les êtres peuvent agir de façon immorale, tromper leurs partenaires, détourner des fonds publics, massacrer des civils, exploiter des enfants sans conséquence. À titre personnel, c'est une vérité qui m'est encore très dure à entendre et encore plus à défendre. Depuis toute petite, j'ai toujours eu en horreur l'injustice. J'ai grandi avec l'idée que les gens qui font le bien, qui travaillent dur et honnêtement, méritent d'être récompensés, et que ceux qui sont malhonnêtes doivent être punis. J'ai longtemps été sujette à ce que certains appellent le syndrome de la bonne élève, l'envie de tout bien faire, de répondre exactement à ce qu'on me demande, de travailler dur pour assurer ma réussite. Alors, après avoir réussi mes concours et être entrée dans mon école, je me suis retrouvée nez à nez avec une injustice qui me paraissait des plus intolérables. Si l'ensemble d'entre nous avions travaillé dur pour arriver jusqu'ici, certains étaient des fraudes, avaient triché pour en arriver ici, et même ne travaillaient pas pour mériter leur place. Alors, quelque part, je peux comprendre cette colère, cette indignation des pharisiens et ce désir de justice. Eux qui essayent de mener leur vie avec autant d'exemplarité que possible, avec rigueur et austérité, et qui dévouent leur existence à quelque chose de plus grand, un idéal, tandis que d'autres se laissent aller, se dérobent à leurs responsabilités, ici devoir conjugal, et transgressent même les lois pour leur plaisir. Face à de telles situations, il y a un besoin de justice. On aimerait que Jésus soit plus dur avec ceux qui nous font du mal, mais ça serait passer à côté de la promesse centrale d'amour et de pardon qu'offre Jésus à chacun d'entre nous, sans distinction. Lorsque le monde entier nous accable et porte sur nous un regard accusateur, Jésus, par son regard bienveillant, nous tend la main et nous invite à nous reposer sur lui. Dans la vie, il peut arriver que parce qu'on a mal agi, parce qu'on a commis une faute, la société nous colle une étiquette. C'est ici le cas de cette pauvre femme, la femme adultère, dont on ne sait ni le nom, ni si elle a des enfants. Elle est juste ici réduite à sa faute, l'adultère. Ce que nous rappelle ce texte, c'est qu'aux yeux de Jésus, nous ne sommes jamais des cas perdus. Nos péchés ne nous définissent pas. Au contraire, Jésus dépose en nous sa confiance et nous invite à aller de l'avant. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, peut-on lire dans l'évangile de Jean au verset 17. Sa promesse est une promesse d'amour, de liberté et d'espérance. Lorsque Jésus dit à la femme « va et désormais ne pêche plus », il lui rend sa dignité de femme en lui rappelant que non seulement son péché ne la définit pas, mais qu'en plus, elle a le pouvoir d'aller de l'avant vers une nouvelle vie. Car il est toujours temps de venir à Jésus, de mener une vie meilleure, quelle que soit notre vie passée. Et si le désir de justice est légitime et que parfois on a envie de pointer l'autre du doigt, de le voir condamné, rappelons-nous que ces mêmes doigts peuvent aussi se pointer contre nous, comme ceux des pharisiens seront d'ailleurs pointés contre Jésus au Jardin des Oliviers, à Jérusalem, quelques jours avant Pâques. Et alors qu'il est réconfortant dans ces situations de se dire que Jésus sera, lui, toujours présent pour nous. Alors peut-être que juger en tant que chrétien, c'est avant tout dépasser son jugement et incarner la promesse que nous fait Jésus en refusant ce jeu des étiquettes et en se rappelant que nous aussi, nous pouvons être prêt à tendre la main, même à ceux qui nous ont offensés. Et parfois c'est très dur, mais heureusement nous pouvons nous recueillir et puiser en cette source d'amour inépuisable qu'est Jésus et sa parole pour trouver la force de suspendre son jugement et tendre la main à son prochain. Amen.